Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Ça va Yves?
Impec.
Et voilà, c'est ma première émission de la rentrée avec toi.
Eh bien, c'est très sympa de m'inviter.
Oui, c'est l'émission qui parle de livres et on va commencer par parler des livres où il y a pas mal d'images. Peut-être même beaucoup plus d'images que de textes, mais un peu de texte parfois.
Il faut nécessairement du texte pour accompagner des images.
Eh bien, ce sont les livres des éditions de juillet et aujourd'hui, nous allons parler de cette belle rentrée des éditions de juillet. Peut-être que parmi nos éditeurs de Canal B, il y a certains qui ne connaissent pas encore la maison d'édition rennaise, les éditions de juillet.
Ben, peut-être, et je pense que c'est même forcément.
Ah oui?
Ah ben oui.
Mais 20 ans d'existence.
Ben oui, mais en fait, nul n'est prophète en son pays, tu le sais bien.
Ouais, c'est vrai. Alors peut-être qu'on peut les présenter.
Les éditions de juillet sont nées d'une envie commune à Richard Volant et moi-même, donc je m'appelle Yves Bigot, et d'une envie commune de faire des livres de photographie. Et donc nous faisons partie d'un groupe d'éditeurs depuis maintenant une dizaine d'années qui regroupe tous les éditeurs de photos. Et alors c'est un genre qui est assez méconnu, puisqu'on nous trouve plutôt au rayon Beaux-Arts, donc ce ne sont pas des livres illustrés, on est d'accord, hein, il n'y aura pas truc sur le perche pittoresque ou la course en solitaire de machin chose, ce n'est pas du tout le propos, c'est-à-dire qu'on propose une scénarisation et un récit en images, et ce récit en images est forcément accompagné de textes, comme je disais tout à l'heure.
Un exemple très concret avec la disparition d'Annette Zellman, l'été 42, de Jacques Sierpinski, j'ai bien
oui,
dit.
Oui.
Eh bien, voilà, c'est un livre qui actuellement est en vente.
Oui, oui, c'était... en librairie, oui. Il y avait une nécessité aujourd'hui de publier des livres qui ont du sens. Quand je dis qu'on fait des livres d'images, ces images ont tout un sens quand on les met ensemble. Et à la fin, elles expriment un objet qui est celui du livre. Et là, en l'occurrence, ça, c'est une histoire familiale tragique qui a été revisitée par l'un des descendants qui est Jacques Sierpinski, qui a eu une grand-tante qui a été dénoncée et donc a été déportée pendant la période de l'occupation, donc en 1942. Cette histoire-là de la délation, etc. Et puis tout ce que l'on suppose connaître, hein, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur justement la quantité prétendument innombrable de dénonciations, c'est pas tout à fait le cas, faut nuancer. Hein. Il y a un historien qui a écrit un texte qui s'appelle Laurent Joly, qui est un spécialiste de cette période, qui nuance un peu les choses. Et donc c'est la grande histoire qui rencontre la petite, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Et la petite histoire, c'est l'histoire familiale de cette femme, Annette Zellman, qui est une jeune artiste très prometteuse, qui fréquente les milieux néo-dadaïstes, et qui est étudiante, hein, donc qui fait de la peinture, qui fait du dessin, qui écrit des poèmes surréalistes, et tombe amoureux d'un jeune poète dans le qui est dans le même cercle qu'elle. Et ce poète est le fils d'un médecin très réputé sur la place de Paris qui s'appelait Jean Josion. Non, pas Jean. Jean, justement, c'est le nom du poète. Donc c'est son père. Attention, hein, faut pas que je mélange tout. Et donc, le père voit d'un très mauvais œil le fait que son fils tombe amoureux d'une juive. Et donc, quand les lois anti-juives passent, etc., il décide, pour empêcher le mariage, de dénoncer Annette à la Gestapo. Et donc, sans le dire à son fils, évidemment. Et ensuite,
Jupiter n'est pas d'accord hein, avec ça.
Ouais, non, non.
Jupiter, il est très révolté par l'histoire.
Ben oui. Voilà. Et donc, c'est un amour pour le moins contrarié, on va dire. Hein. C'est absolument un drame absolu. Et évidemment, le fils est mort à la fin de la guerre d'une balle perdue. Et ce médecin est mort en 59 sans jamais rien avoir révélé à qui que ce soit. Et c'est un historien dans les années 60 qui, en compulsant les archives de la Gestapo, parce qu'ils avaient un truc un peu de malade mental de tout consigner, hein, de toute façon, donc c'était le principe d'administration nazie, eh bien, il a réussi à reconstituer l'histoire. Sachant que la famille Annette avait disparu sans laisser de traces, et la famille n'avait jamais rien su jusque en, oui c'est ça, c'est dans les années 60 où ils ont appris que c'était en fait ce type là qui avait dénoncé leur fille, enfin leurs parentes, quoi.
Oui, ben voilà, donc...
Donc c'est un truc terrible, hein.
Ouais, c'est un truc, donc, oui.
C'est pas un... si, c'est un cadeau de Noël, quand même. Ouais. Hein, non, c'est pas non plus un truc qui plombe, parce que c'est très beau, il y a la reproduction de toutes les œuvres d'Annette, c'est un livre avec tout, aussi avec tous ses poèmes, il y a les courriers qu'elle adresse justement à Jean Josillon, son amoureux, et il y a tout ça derrière, donc c'est une belle histoire. D'ailleurs, c'est tellement une belle histoire que ça a fait l'objet d'un téléfilm qui est paru cet été, d'ailleurs, qui a été rediffusé cet été sur France 2. Et qu'est-ce qu'il aime, mais en tout cas, ça veut dire que c'est quand même une histoire qui est romanesque, en fait.
Oui, on va revenir sur les nouveautés de la rentrée des éditions.
Super. He gets up each morning and he goes downtown. Where everyone's his boss and he's lost in an angry land. He's a little man, but then he comes uptown each evening to my tenement. Uptown where folks don't have to pay much rent.
De Yves, des éditions de juillet, alors des années 80, Comatines quand même, hein. Comatines,
ouais.
Coma.
Ouais.
Teens.
Ouais.
T'écoutais ça quand t'étais plus jeune.
Bah, j'étais au lycée à l'époque, hein. Bon, c'est le premier album, je crois, en tout cas à ma connaissance. Bon, après, ils ont fait des tubes, hein. Dans les années milieu des 80, ils ont fait des gros tubes. Mais ce disque-là, je l'aime bien.
Trop bien. Et justement, pour parler des tubes, comme ça, quel est le livre qui a eu la meilleure vente
La meilleure vente de tous les temps des éditions de juillet, c'est Rock, l'histoire du rock en Bretagne.
Trop bien.
Qu'on avait fait avec Franck Darcel. Mm-hmm. Et on en a vendu 3000 en, je sais pas, 3-4 mois, quoi. Enfin, c'était un peu délirant.
Bon.
Après, en livre photo, parce que là, c'est la musique avec des images, c'est différent, hein, mais on a eu Guy Le Querec en Bretagne, où on a fait un très bon score, et il s'est très vite épuisé. Et c'est un bouquin dont je suis fier, vraiment. Au rock aussi, hein, pour d'autres raisons, hein, puisque c'est plus ma passion pour la musique en général qui nous a amené à faire ça. Et puis, y en a encore un troisième dont je suis extrêmement fier aussi, c'est le journal de la photographe d'Alain Keller.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
ça, c'est un bouquin qui est sorti maintenant il y a 6 ans, dont on me parle encore aujourd'hui. Et les gens se plaignent beaucoup qu'il n'existe plus, qu'il soit complètement épuisé, mais peut-être qu'un jour on le ressortira, mais pour l'instant on est plutôt guidé par ce qui se passe après. Hein. On voit devant, on ne réédite pas forcément.
Oui.
Voilà.
Pour cette rentrée, tu as sélectionné 3 ouvrages qui vont sortir, là, mois d'octobre, novembre.
C'est ça.
Très différents.
Oui.
Pour autant, qui nous font beaucoup voyager.
Oui, et puis qui parle en définitive, il y a un vrai point commun entre les trois quand même, parce que on explore vraiment l'humanité, quoi.
Oui.
L'humanité et le don, en fait.
De don dans quel sens ?
Le don de soi et le don de une certaine forme de générosité.
Très beau, très joli.
Et en même temps, on interroge des questions d'identité, des questions
de politique.
De politique, toujours, de toute façon. Ouais. Là, nous, on pense intimement, Richard et moi, que sortir un livre, c'est politique. Donc, si ce n'est pas politique, même quand on fait un livre de recettes, on achète un livre de recettes, c'est politique. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc là, je parle du premier, c'est ça ?
Oui,
ouais.
On y va.
Alors, le premier, c'est un livre d'Olivier Jobard. Alors Olivier Jobard, c'est un photographe français qui est à l'agence Myope. Ce photographe, il est très investi depuis maintenant bien longtemps, au moins 20 ans, dans l'exploration des phénomènes migratoires. Et il a fait un bouquin hallucinant en 2006, que moi j'adore, s'appelle Kingsley, où il a carrément suivi des migrants, mais il a traversé la Méditerranée avec eux et tout, sur une coquille de noix, quoi. Et donc il les a suivis, il les a photographiés, c'est incroyable, c'est un excellent photographe. Et là, il est reporter. Mais là, c'est une histoire qui le frappe de plein fouet, je dirais, dans la mesure où, en fait, un jour, en 2010, il est dans la rue et il cherche à photographier justement des exilés. Il s'intéresse forcément à cette problématique-là. Et il rencontre un jeune garçon qui s'appelle Gorban. Et ce jeune garçon, il a parcouru 7000 km à pied.
Ah ouais, d'accord.
Et donc, il le prend avec lui, il le prend un peu sous sa coupe, si tu veux. Et puis, depuis d'ailleurs, Gorban est devenu son filleul républicain, tu vois. Donc, il y a toute une relation qui s'est nouée. Donc, il commence à contacter la famille. Il vient d'Afghanistan, il contacte la famille. La famille croyait que Gorban était mort, en fait. Hein. Voilà, donc ça faisait des années qu'ils n'avaient pas entendu de nouvelles. C'était très émouvant, quoi, pour eux. Et en fait, ils décident d'aller là-bas, avec lui. Donc, il retourne donc, avec sa femme, Claire, qui est réalisatrice. Donc, ils retournent là-bas, donc ils font connaissance de la famille. Ils repartent, et puis là, il y a les talibans qui arrivent au pouvoir. Et donc là, toute la fratrie arrive en France. Et en fait, ils se sont occupés des papiers administratifs, les accompagnaient dans des... et c'est quelque chose de très beau, parce qu'en même temps, Olivier, il a le sentiment que sa famille s'agrandait. C'est pour ça que ça s'appelle notre famille afghane. Parce qu'en fait, ses enfants se sont très très bien entendus avec les enfants. Et donc, lui, il s'est retrouvé dans la position d'un photojournaliste qui photographie son intimité, ses enfants, etc. Et donc, d'habitude, à l'habitude, il posait toujours son appareil photo pour dans des scènes d'intimité comme ça. Et là, il s'est retrouvé à documenter sa propre vie, quoi.
Ouais.
Et c'est vraiment, ça va être un très beau livre.
C'est fort, il s'est fait happer.
Exactement.
Ouais, il s'est fait happer par la chose. Très beau, très très beau. Peut-être nous allons faire quand même la pause musicale avant de présenter les deux autres que tu as dans la besace. Deux livres qui ne pouvons pas passer à côté.
Quand on me demande notre ligne éditoriale, je suis incapable de répondre. Et en fait, tous les livres qu'on fait ont un lien. Vraiment. Mais il est difficile à définir de notre point de vue, en tout cas. En fait, nous avons un délire absolu. Un délire, j'ai dit. Alors que c'est un désir qui nous anime.
Mais bon. Sur l'absus, il est tout à fait opportun.
Ah oui, c'est vrai. Donc, le désir qui nous anime, c'est vraiment d'avoir le livre chez nous. D'abord, c'est nous les premiers lecteurs.
Donc, c'est trop bien. Et on est dans la bibliothèque de Richard et de Yves.
Voilà, c'est ça.
Trop bien.
D'abord.
D'abord. Et là, c'est quoi alors ?
Alors là, c'est un livre qui explore justement un quotidien qui est assez méconnu, parce que c'est un atelier photographique qui a été animée par un étudiant, qui est bénévole au Secours catholique, et donc très jeune, et qui a duré un an, toute l'année 2022, et qui donc cet atelier photographique a été animé, et le public, enfin ceux qui, les membres du collectif Cèdre Photographe, sont des exilés.
Ah oui.
Et donc des sans-papiers, plutôt au nord de Paris. Et donc, ils ont eu des appareils photo argentiques jetables.
Oui.
Pendant un an, il y a eu un travail de photo sur leur quotidien qui a été fait. Et c'est eux qui ont fait les photos.
Ah oui. Et
donc, on découvre un monde, en fait.
Ouais.
Et on découvre le point de vue du migrant, en fait. Et ça, c'est tout à fait... étonnant. Mais étonnant dans le sens où je dirais pas que c'est dramatique. Évidemment, il y a des tracasseries administratives, il y a la clandestinité, il y a la peur du lendemain, il y a tout ça, évidemment. Mais il y a aussi de la joie, il y a de la rigolade, il y a quand même, ce sont des êtres humains.
Et puis c'est ça, c'est surtout de voir qu'ils vont aussi vers le sensible. Alors oui. Que la situation, elle est...
Oui, et d'ailleurs, la sensibilité, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. La sensibilité, elle est vraiment... elle surgit dans des photos qui sont maladroites.
Ah oui.
Parce que ce ne sont pas des photographes. Uh-huh. Ce sont des gens à qui on a donné des appareils photos. Ils font comme ils peuvent. Ils font des progrès au fur et à mesure du temps, forcément.
Intéressant.
Mais au début, ils ne sont pas du tout photographes, quoi. Et donc, cette maladresse se transforme en fraîcheur, la fraîcheur du regard, quelque chose de très... et qui véhicule une très grande sensibilité, en fait.
Magnifique. Et pour terminer, alors, un troisième rendez-vous avec la jeunesse, cette fois-ci.
Ouais. Alors ça, c'est un truc... Ben, on a 20 ans, justement.
Ouais.
Et 20 ans le bel âge, hein.
Ouais.
On le sait. Et là, c'est Julien Daniel, c'est un collègue d'Olivier Jobard, parce que lui aussi, il est à l'agence Myope, qui a des enfants qui ont eu 20 ans en 2020.
Inspiré.
Oui, alors je vous raconte toute l'histoire depuis le début. Hein. Alors attention, ça va peut-être être long, tu me dis. Hein, mais en fait, en 2000, il est allé à Moscou. Et c'est au tout début de sa carrière de photographe. Et donc, il y est retourné 5 ou 6 fois au début des années 2000. Et puis, il a photographié Moscou, il a fait de la street photographie, donc la photo de rue, quoi. Enfin, voilà, des ambiances, etc. C'est un chouette travail, d'ailleurs. Et puis, quelques années plus tard, en 2018-19, par là, il s'est dit, mais au fait, je retournerai bien à Moscou, parce que les gens, les gamins... qui sont nés en 2000, qui ont l'âge de mes enfants, et ben ils ont toujours connu Poutine, en fait. Donc je vais aller peut-être voir la jeunesse moscovite et rencontrer des gens de 20 ans et je vais les interviewer, je vais faire leur portrait, je vais leur demander un peu...
Qu'est-ce que c'est que de vivre toute sa jeunesse avec un même...
Avec le même régime politique, hein, tu vois, donc il s'agit de ça. Et puis, il est revenu donc avec son travail. Ce travail a été publié. Hein, il a eu vraiment un certain retentissement. C'était vraiment un superbe travail photographique. Et puis, donc il est venu nous voir. Et là, ça remonte. Hein, ça fait peut-être 4 ans qu'on est dessus, en fait, comme ça. Et puis... on n'arrivait pas à coller ces photos de Moscou avec les photos de Moscou qu'il avait faites 20 ans avant. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que le sujet, c'était la jeunesse. Donc là, vraiment, c'est un travail qu'on a... C'est vraiment les échanges qu'on a eus. C'était vraiment chouette. Hein, assez stimulant, intellectuellement même. Et ben, pour le coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé en Allemagne photographier les gens qui avaient connu Angela Merkel. Et puis, il est allé en Turquie pour aller rencontrer des gens qui n'ont connu qu'Erdogan. Il est allé au Rwanda voir les jeunes gens qui n'ont connu que Paul Kagame. Et enfin, il a terminé par Israël. Avec Benjamin Netanyahou. Voilà. Et donc, ça fait À la fin, ça fait un travail assez colossal quand même, parce que c'est un livre qui va faire 260 pages. Hein. Mm-hmm. Bon, c'est pas un petit bouquin, c'est un bouquin qui se lit. Il y a beaucoup de témoignages, de retranscriptions de témoignages de jeunes gens. Il y a aussi une sorte de carnet de bord du photographe qui explique un peu aussi sa vie. C'est-à-dire, bon, il part, il revient. Le voyage suivant, il faut le financer. Il a une commande du Figaro Magazine, il en profite, etc. Enfin bon, voilà, il raconte un peu sa vie de photographe de presse. Et puis, il y a beaucoup de photos aussi qui sont absolument magnifiques, de paysages urbains, tout ça qui... Bon, tout ça est vraiment très riche. Ouais.
Et qui sort là, tout ça que nous sommes en train de raconter, entre le mois d'octobre et novembre,
c'est
sera
ça.
Disponible.
Alors, octobre, donc c'est Notre famille afghane qui sort au mois d'octobre, et les deux autres sortent en librairie le 1er novembre.
Génial.
Voilà.
Voilà. C'était la rentrée littéraire photographique des éditions de juillet, littéraire récit.
Oui.
Ouais. Mais pour terminer, vraiment, hein, on n'a pas envie, mais le temps passe. Il y a une grande braderie qui se dessine bientôt et c'est une annuelle maintenant que vous allez faire.
Oui, enfin, c'est la première et on espère que ce sera annuel. Alors, j'explique vite fait.
Vas-y.
En fait, c'est une. En fait, comme ça fait 20 ans qu'on existe, donc on a fait à peu près un peu plus de 200 bouquins. Imaginez un instant qu'il ne reste que 20 bouquins. De chaque exemplaire, ce qui n'est pas le cas, parce que des fois il n'y en a plus que 5 et des fois il y en a encore 200 en fait. Et si vous faites 20 multiplié par 200, ça fait 4000 livres. Donc ça prend beaucoup de place. Alors ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais livres, ça veut dire que peut-être qu'on a trop tiré en fait, tout simplement. Enfin bon, il y a des livres qui ont trouvé leur public, mais il en reste 50.
Et voilà. Puis c'est la vie aussi des éditions,
ouais,
de se faire connaître.
Donc on n'a jamais pilonné, on n'a jamais donc détruit les livres, on n'a jamais fait de braderie plus que ça. Donc on se dit, on fait une grande vente, les livres sont vraiment super pas chers. Ce sont des livres qui ont été retirés du commerce. C'est important de le dire parce que s'il y a des libraires qui y a la loi Languin, donc on la connaît. Donc s'il y a des libraires qui nous écoutent, rassurez-vous, on ne fait pas de concurrence déloyale aux libraires.
Oui.
C'est des livres qui sont retirés de la vente et donc on les propose. Donc c'est le 26 septembre. C'est à Champy parce que c'est là qu'on habite. Donc on s'est dit, c'est le bistrot d'en face et c'est un bistrot super qui s'appelle la Pimuette.
Trop bien.
Et voilà,
c'est l'opportunité de te rencontrer, de vous rencontrer avec Richard.
Ah bah oui, puis là c'est le 26 septembre, on se voit autour d'un coup à boire, il y aura plein de livres, il y a de la bonne musique. Et donc,
à quelle heure?
C'est à 17h30 et ça se termine à 21h. Parce qu'à notre âge, on couche tôt. Voilà.
Non, il n'y a pas 80 ans, non.
Non.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B. Retrouvez le podcast de l'émission sur canalb.fr.
Merci d'être venu Yves, tu viendras. Hein. Ce sera bien qu'on puisse se voir un peu plus régulièrement pour parler photos, livres photos ici sur Canal B.
Quand tu veux.
Très bien. Bon, rendez-vous sera pris bientôt. Et rendez-vous avec vous également la semaine prochaine, samedi à 11h avec rediffusion à 16h30. Allez, bisous, bye.